Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca en direct des studios de l'UQAM. Ce sont vos trois animateurs, présentateurs, chroniqueurs et entertainers préférés, c'est-à-dire Mathieu, Marie-Ève. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Simon.
Salut.
Salut. Donc, on est bien le 25 juillet 2024 en direct, il est 18h31. On est donc diffusé pas vraiment aujourd'hui en direct sur le site de Choc, il y a un petit bug, donc c'est surtout l'enregistrement qui est important pour le balado. Et comme vous savez, hein, auditeurs, auditrices avertis, maintenant Facebook a décidé de bannir Choc de sa plateforme. Donc, pour trouver notre émission, vous pouvez aller sur le site de Choc, sur le site de notre émission, mais sur notre page Facebook, aux Apatrides, ben on peut plus mettre le lien direct vers Choc. Fait que soyez inventifs et débrouillards pour nous trouver. Donc, une émission en plein été. On est content d'être avec vous. On est toujours sur les enjeux de racisme, frontières, droits humains, sécurité de toutes sortes et dictateurs et aussi traverser des différents plans d'eau et aussi un agenda aujourd'hui. On va parler de différents pays, entre autres du Rwanda, du Kenya, du Costa Rica, du Pérou, de la Tunisie, du Proche-Orient. On va parler aussi des actualités d'immigration ici, Québec-Canada, actualités autochtones, la Méditerranée, même la police d'Ottawa, imaginez-vous, mesdames et messieurs. Et à la fin, donc, comme je disais, il y aura un agenda et de la musique aujourd'hui de Susanna Hood Trio, Laetitia Sadier et aussi un groupe s'appelle O, un groupe mystère qu'on va vous présenter qui est dans le palmarès de Choc. Donc, vous êtes bien aux Apatrides Anonymes, on commence à l'instant. Donc, je vais commencer avec un pays que je vous ai pas nommé, qui est la Tunisie. Un petit bilan de ce qui se passe actuellement. Vous allez reconnaître beaucoup d'informations qu'on vous a données dans les derniers mois. Mais là, il y a une nouvelle quand même assez frappante. Entre le 1er et le 25 juin dernier, 3500 migrants en situation irrégulière, exténués, victimes d'une virulente politique anti-noire dans le pays, ont demandé l'aide de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, pour rentrer chez eux. Un chiffre en hausse de 200% par rapport à l'année passée.
Oh!
Quand même. Les premiers concernés sont les Gambiens, les Burkinabés et les Guinéens. Une augmentation qui n'a rien d'étonnant pour le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le FTDES, victime d'une politique raciste menée par le président Sayed. Des milliers d'entre eux ont perdu leur emploi, leur logement, après un discours virulent du chef de l'État en février 2023, qui les a accusés de violence et de crimes. On s'en rappelle, on avait parlé souvent. Sayed les rend aussi responsables d'un plan criminel, sorte de théorie du grand remplacement à la tunisienne, qui viserait à changer la composition du paysage démographique du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, pourtant, 23 000 migrants réguliers seraient actuellement au pays, soit 0,2% de la population. Hein? Tout un plan de remplacement. Depuis l'été 2023, les opérations de la police tunisienne ont lieu pour vider Sfax, au centre du pays, de sa population noire. Une majorité de migrants réside dans la région qui est le point de départ vers Lampedusa, à 150 km de distance par la mer. Des exilés subsahariens expliquent avoir été raflés chez eux ou dans la rue, puis abandonnés dans le désert à la frontière libyenne ou algérienne. Certains ont raconté avoir été interceptés en mer au large de Sfax, puis déposés en autobus hors du pays ensuite, dans le désert en général. Repoussés hors des villes, ils ont fini par se cacher dans leur appartement ou s'installer dans des campements informels en périphérie urbaine, notamment le long de la route nationale entre Sfax et Djebeniana. Des centaines de migrants subsahariens y vivent actuellement dans la précarité la plus totale. Depuis plusieurs mois, le gouvernement tunisien espérait ses départs en masse. Lors d'une visite de Giorgia Meloni au mois d'avril, Rome et Tunis étaient déjà engagés à miser sur les retours volontaires pour lutter contre cette immigration en impliquant les organisations internationales. Les migrants rapatriés bénéficient du programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration de l'OIM, ce qui signifie une prise en charge du billet retour ainsi qu'une aide à la réintégration dans leur pays d'origine. Pour Rodnan Benamar, porte-parole du forum que je parlais tantôt, l'Union européenne a sa part de responsabilité dans ses retours. L'UE a donné tous les moyens financiers, logistiques et techniques à la Tunisie pour mettre en place cette politique anti-migrants, affirme-t-il. Ce que vise M. Ben Ammar, c'est l'accord UE-Tunisie signé le 14 juillet 2023, centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Cet accord de 127 millions d'euros sert aussi à soutenir le pays qui connaît de graves difficultés économiques. En contrepartie, Tunis doit empêcher les départs de bateaux, de migrants vers l'Europe, lutter contre les passeurs et assurer le retour des Tunisiens en situation régulière qui sont dans l'UE, ainsi que celui des migrants d'Afrique subsaharienne depuis la Tunisie vers leur état d'origine.
Gros contrat.
Tout un contrat, beaucoup d'argent. Mais cet accord et les opérations anti-migrants qui ont suivi ont eu un double effet. Si elle pousse de plus en plus de migrants à rebrousser chemin et à rentrer chez eux, elle incite aussi de nombreux autres à tenter de traverser la Méditerranée au plus vite, quelles que soient les conditions de sécurité. Les départs depuis les côtes de Sfax ont enregistré une augmentation record durant les premiers mois de 2024, avec plus de 21 000 personnes ayant quitté clandestinement le pays par les frontières maritimes. Des départs qui s'effectuent dans des conditions plus que précaires. Les exilés utilisent des canons en métal inaptes aux traversées. Ils accusent aussi les forces tunisiennes de manœuvrer dangereusement après les embarcations, provoquant des vagues et des naufrages. Certains accusent aussi la marine tunisienne de voler les moteurs de leurs canots. Donc, en 2023, plus de 157 000 personnes venues de Tunisie principalement ont débarqué en Italie contre 105 000 en 2022. C'est des chiffres qu'on avait déjà donnés. Cette même année, plus de 1300 migrants subsahariens, mais aussi tunisiens, sont morts en mer près des côtes tunisiennes. Donc, en 2023. Dernière nouvelle sur la Tunisie. Ben, une élection présidentielle sera organisée le 6 octobre, a annoncé le chef d'État, Kais Saied, au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans expire à l'automne. Élu démocratiquement en octobre 2019, M. Saied accapare tous les pouvoirs depuis son coup de force de juillet 2021, lorsqu'il avait, après plusieurs mois de blocage politique, limogé le premier ministre et gelé le Parlement avant de le dissoudre. Depuis février dernier, une vingtaine d'opposants et personnalités ont été emprisonnés et sont accusés de complot contre la sûreté de l'État, M. Saied les qualifiant de terroristes. En mai, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé l'intimidation et le harcèlement dont sont victimes en Tunisie des avocats et membres des médias critiques du gouvernement et de ses politiques migratoires. Kais Saied s'est déclaré officiellement candidat à sa succession pour l'élection présidentielle d'octobre. Marie-Ève, quelle nouvelle surprenante, hein? Et il n'y a pas de limite de mandat dans sa nouvelle constitution à lui.
Ben non, the sky is the limit.
Oui, on va parler de Paul Kagame tantôt, là. C'est vraiment des charmants personnages. Donc, voilà pour la Tunisie. Je voulais faire un petit résumé. C'est un pays quand même assez chaud, assez important. Donc, Marie-Ève, on s'en va un petit peu plus vers le sud-est, un peu, on dirait. Vers le Proche-Orient.
Oui, c'est ça. Ben en fait, tu m'as fait une passe à sa palette.
Sa palette, et non pas dans les patins.
Non, parce que je poursuis mon suivi là, d'élections diverses à travers le monde.
Oui.
Je vous en ferai peut-être une en octobre pour ce qui est de la Tunisie.
J'espère.
Mais là, je vous amène en Syrie où la semaine passée, il y a eu des législatives. C'était au début de la semaine dernière. Sans surprise, là, le parti au pouvoir de Bachar el-Assad a raflé la majorité des sièges, soit 185 sur les 250 que compte l'Assemblée. Les sièges restants ont été remportés par des candidats qui se sont présentés en tant que indépendants.
Oui.
Je mets des guillemets parce qu'ils étaient quand même tous sur la liste du Baas pour la grande majorité.
Mm-hmm.
Donc, c'était la quatrième fois que des législatives étaient organisées depuis le début de la guerre civile en 2011, les élections que l'opposition en exil a qualifiées d'illégitimes et d'absurdes, entre autres parce que le vote s'est déroulé sans la participation des Syriens qui vivent en dehors des zones contrôlées par le gouvernement. Parce qu'il faut savoir que les Syriens du nord-est qui est contrôlé par les Kurdes, puis ceux du nord-ouest qui est contrôlé par les djihadistes, sont privés de leur droit de vote.
Évidemment.
Il y a des candidats pour les sièges de ces régions-là, mais c'est quand même seulement les électeurs qui vivent dans des zones contrôlées par le gouvernement qui peuvent voter. C'est
exactement.
Quand même particulier.
Ouais.
Comme on pouvait s'y attendre, les élections se sont déroulées sur un fond de manifestations, entre autres dans la province de Soueida, dans le sud du pays, où des centres de vote ont été attaqués dans plusieurs localités. Faut dire que cette province-là est le théâtre de manifestations anti-régime depuis que le gouvernement a levé les subventions sur les carburants. Il y a près d'un an de ça, ce qui a vraiment porté là, un nouveau coup dur à la population qui était déjà fortement éprouvée par la guerre. Donc, des dizaines de milliers de jeunes hommes de la région qui ont refusé d'effectuer leur service militaire depuis 2011 et les forces de sécurité ont une présence vraiment limitée dans cette partie-là du pays. Donc, c'est quand même une partie du pays qui est plus, disons, rébarbative.
Où ça bouge, oui.
Oui, c'est ça. Et donc, quand même faire un petit rappel que la guerre a fait de plus de 5 000 morts et provoqué 500 000 morts.
Oui.
Et provoqué le plus important déplacement de population au monde, soit 13,8 millions de personnes, selon l'ONU. Et des millions de Syriens qui ont trouvé refuge à l'étranger pendant le conflit ont évidemment pas le droit de vote, eux autres non plus.
Ben oui.
Et une partie de ces exilés-là se trouve en Turquie.
Mm-hmm.
Et la question des réfugiés syriens en Turquie, qui sont au nombre de près de 4 millions dans ce pays-là, domine la vie politique du pays, comme on peut s'en douter. Donc, la question des réfugiés avait été au cœur de l'élection présidentielle de mai 2023, qui a reporté au pouvoir le Recep Tayyip Erdogan avec 52,2% des voix.
Mm-hmm.
La coalition d'opposition qui a été amenée par le Parti républicain du peuple avait notamment fait campagne sur le renvoi définitif des réfugiés syriens.
Ben oui, je me rappelle.
Mais dès mai 2022, le président turc, lui, avait promis d'assurer un retour volontaire, donc
oui, oui.
C'est pas juste en Tunisie qu'il y en a,
d'un
million de Syriens dans le nord de la Syrie. Et donc là, ben tous les mois, il y a plusieurs milliers de Syriens qui sont expulsés, donc depuis la Tunisie, la Turquie, pardon, vers le nord de la Syrie.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, au début du mois, il y a eu des conflits qui ont éclaté dans le nord-ouest de la Syrie, qui est contrôlé par les partisans syriens du régime d'Ankara, entre des manifestants syriens et des forces armées turques qui ont fait 7 morts et plus de 20 blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les manifestants protestaient contre les attaques de la veille visant leurs compatriotes à Kayseri, qui est en Anatolie centrale, lors d'une soirée d'émeutes racistes. Plusieurs centaines d'hommes ont pris d'assaut des quartiers syriens dans la province après qu'un homme syrien a été accusé de violence sexuelle à l'égard d'un enfant de son entourage. Le lendemain, plusieurs villes de Turquie, elles, ont été le théâtre de pogroms anti-syriens.
Mm-hmm.
Le jour suivant, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 474 personnes liées aux émeutes anti-syriennes. Les tensions entre la population turque et les réfugiés syriens datent pas d'hier, là, par contre. Par exemple, en août 2021, il y avait un millier de personnes qui avaient mené une descente là, dans le quartier de Altindag à Ankara, à la suite des échauffourées là, entre jeunes Turcs et Syriens qui s'étaient soldés là aussi par la mort d'un Turc. Ou encore en janvier 2022, là, plus récemment, alors que le quartier de Esenyurt, qui est en périphérie d'Istanbul, avait fait l'objet là, d'attaques similaires. Et donc, ces protestations-là dans le nord de la Syrie étaient aussi en réaction avec le récent rapprochement entre le gouvernement de Erdogan et le régime de Bachar el-Assad.
Ben oui, regardons ça.
Parce que là, près de 13 ans, donc, après les révoltes du printemps arabe et l'éclatement de la guerre civile syrienne, qui avait vu à ce moment-là Ankara soutenir les rebelles syriens, ben le président turc a déclaré qu'il voyait aucun obstacle au rétablissement des relations avec la Syrie. Erdogan est même allé jusqu'à évoquer une époque pré-guerre civile où il passait ses vacances avec le dictateur syrien. Je le cite, c'est assez fleuri comme citation. Il fut un temps où nous nous rencontrions en famille avec M. Assad. Peut-être que cela se reproduira à l'avenir. Bah, à quand un barbecue, diantre?
Ben oui, ben oui.
Alors, je vais te terminer.
Diantre!
Un barbecue sur des ruines fumantes.
Oui, c'est ça, de ruines d'émeutes syriennes. Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Je termine avec la Palestine. Avec la Palestine, donc plus particulièrement avec la Cisjordanie occupée, où, je le rappelle, il y a 490 000 Israéliens qui sont installés dans des colonies au milieu de 3 millions de Palestiniens.
Mm-hmm.
C'est qu'à la fin juin, il y a une annonce pourtant importante du ministère des Finances israélien passée presque inaperçue, c'est-à-dire la légalisation de 5 avant-postes. Je vais vous expliquer après là, ce que c'est, des avant-postes. La saisie de 1270 hectares de terre, soit la plus grande saisie de terre depuis les accords d'Oslo en 93, c'est pas rien.
C'est quelque chose, oui.
Et la décision d'étendre les colonies existantes en Cisjordanie occupée en autorisant 5 295 nouvelles unités de logement et 3 nouvelles colonies.
Mm.
Les avant-postes, donc, parce que ce sont des colonies dites sauvages, là, parce que elles sont construites sans l'autorisation d'Israël. Donc, c'est souvent fait par des colons qu'on pourrait dire extrémistes. Là.
Oui, militants, là. Oui. Fanatiques.
Des dizaines, donc, de ces avant-postes, là, ont été établis en Cisjordanie. C'est des zones de taille, là, assez variables. Ils peuvent aller de quelques tentes à des préfabriqués reliés au réseau d'eau et d'électricité. La veille, le Canada avait imposé des sanctions contre des entités et des colons israéliens qualifiés d'extrémistes qui ont visé 7 individus et 5 entités pour leur rôle consistant à faciliter, à soutenir ou à contribuer financièrement à des actes de violence commis par des colons extrémistes israéliens à l'encontre de civils palestiniens à leurs biens. Parmi ces charmantes personnes visées par les nouvelles sanctions canadiennes, on retrouve Ben Zion Gopstein, qui est, selon les médias israéliens, un proche du ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, qui est un faucon du gouvernement de Netanyahou. Son groupe, le Leva, figure lui aussi sur la liste des entités sanctionnées. Monsieur Gopstein a été reconnu coupable en Israël en janvier dernier d'incitation au racisme après avoir qualifié les Arabes israéliens d'ennemis et de cancer. Autre charmante personne, Daniela Weiss, 79 ans, qui est à la tête d'un mouvement prônant la recolonisation de la bande de Gaza. En mars, elle avait eu ses belles paroles sur les ondes de France Info. Les Arabes dehors, les Juifs à l'intérieur, c'est ce à quoi je travaille. Mm-hmm. Il y a aussi le groupe radical Hilltop Youth, qui est lui aussi sur la liste des sanctions. C'est un groupe qui est principalement composé de jeunes colons là, accusés d'établir des avant-postes en Cisjordanie. Il y a aussi le mouvement pro-colonisation Amana. Et d'après le quotidien israélien Haaretz, le Canada est le premier pays à imposer des sanctions à ce groupe-là, qui est responsable, selon l'ONU, d'établissement de plusieurs fermes comme avant-poste. D'ailleurs, il y a 2 fermes sur la liste d'entités sanctionnées. Puis juste en terminant, que ces sanctions-là, bon, évidemment, il y a des sanctions financières et d'interdiction de déplacement, c'est-à-dire que, bon, il y a un gel de tous les avoirs au Canada de ces personnes et de ces entités-là. Il est aussi interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l'étranger d'effectuer des transactions avec les personnes touchées par des sanctions. Et évidemment, ben elles sont interdites de territoire au Canada.
Mm-hmm. Ben oui, c'est bien. Hein? Fait qu'ils font de plus en plus de violence contre les Palestiniens. Ils volent leurs terres, puis après ça, le gouvernement israélien vole des terres officiellement aux Palestiniens pour leur donner à ces gens-là.
Oui, c'est ça.
Légalise leur... comment t'appelais ça? Avant-postes sauvages et illégaux. Là.
Oui, c'est ça.
Donc, beau travail conjoint du gouvernement et des colons. Hein?
Oui, c'est une belle stratégie.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ces actualités du Proche-Orient. On répète donc Syrie, Turquie et puis Palestine,
Cisjordanie.
Ouais. On va y aller en musique immédiatement avec un groupe qui s'appelle... Ben, il s'appelle O, dans le sens de O majuscule. C'est la pièce micro. We'll be right back. duo de Londres O, O majuscule point, la pièce Micro de leur premier album Weirdos, sorti en juin dernier, c'est tout récent. Donc, c'est la percussionniste Tash Carey et le saxophoniste baryton Joanne Wood. Donc, la basse, c'est vraiment le saxophone. La percussion, ça, c'est facile à reconnaître. Simon parlait de drum and bass. On peut parler de post-jazz, d'un peu de prog, un peu de...
Jungle.
Donc, un beau mélange. C'est rentré dans le palmarès international de choc il y a quelques semaines. Donc, haut, point. Pas facile à trouver sur les internets. Mais bon, allez voir sur le site de choc dans le palmarès. Vous allez voir les liens vers ce groupe... fort intéressant, une belle nouveauté. Je vais vous parler un petit peu d'Amérique latine. Ensuite, Simon va faire les actualités autochtones, mais il y a un lien parce que je vais vous parler d'enjeux qui touchent, entre autres, les Autochtones. Commencer avec un activiste issu de la nation Cacataibo au Pérou, qui luttait contre la déforestation de l'Amazonie péruvienne, a été retrouvé sans vie la semaine passée. La dépouille de Mariano Isacama, portée disparue depuis 23 jours, a été identifiée près de la ville d'Aguayita, dans la région d'Ucayali, aux abords de la forêt amazonienne, à 500 km à l'est de Lima. Il s'opposait aux cultivateurs de coca, dont le Pérou est parmi les premiers producteurs, comme vous savez. La culture de feuilles de coca et l'exploitation minière illégale, source de déforestation, expose les peuples autochtones de la forêt amazonienne aux violences des trafiquants. Des porte-paroles des organisations autochtones ont annoncé que les communautés de la région entendent s'armer pour se défendre des cultivateurs de coca liés au narcotrafic, parce que ça fait longtemps que ça dure, ce problème-là. D'après l'ONG Global Witness, au moins 54 défenseurs de l'environnement et des terres occupées par les Autochtones ont été assassinés au Pérou depuis 2012. Plus de la moitié de ceux-ci étaient d'ascendance autochone.
T'as dit 54?
Hein? 54 depuis 10 ans, 12 ans. Ouais.
Dans la plupart des pays latino-américains, Amérique centrale, il y en a plein d'autres aussi.
Oui, c'est assez autochtone, ou leaders sociaux ou syndicaux, tout à fait. Un autre leader, Cacataibo, Benjamin Flores Rios, avait d'ailleurs été tué chez lui en décembre dernier. Plus récemment encore, défenseur de l'environnement issu de la nation voisine Arakmutbut a aussi été victime d'un assassinat. Sinon, la présidence du Costa Rica a annoncé la semaine passée toujours qu'un tribunal international lui avait donné raison dans le conflit qui l'oppose à la compagnie minière canadienne Infinito Gold depuis l'annulation en 2010 d'une concession aurifère pour raisons environnementales. L'entreprise avait saisi le très subtil Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI, une organisation de la Banque mondiale basée à Washington. Infinito Gold réclamait au Costa Rica le versement de près de 400 millions de dollars d'indemnisation pour l'annulation d'un projet minier à Crucitas de San Carlos, environ 200 km au nord de San José, à la frontière avec le Nicaragua. Le Congrès costaricain a interdit en 2010 l'exploitation de cette mine à ciel ouvert après l'annulation par la justice costaricaine du contrat d'exploitation obtenu précédemment. Depuis cette date, des mineurs illégaux en majorité de nationalité nicaraguayenne extraient de l'or dans cette zone sans avoir les permis environnementaux correspondants. Selon les assauts de défense de l'environnement, ils ont causé de graves dommages au sol et aux rivières de cette zone. Infinito Gold avait obtenu en 2008 du président Oscar Arias une concession pour exploiter 261 hectares, dont 191 de forêts primaires, la dernière du pays qui a été abattue. Mais en 2010, après une intense mobilisation des défenseurs de l'environnement, une décision judiciaire avait ordonné au gouvernement d'annuler la concession, faisant valoir les conséquences néfastes et pour l'environnement et les irrégularités dans l'octroi des permis d'exploitation par l'ancien président. Il faut savoir aussi que début juin, le CIRDI, qui est en général pas très favorable aux défenseurs de l'environnement, avait donné raison à la Colombie face à la société minière canadienne Montauk Metal, qui réclamait 180 millions de dollars pour l'avoir exproprié d'une zone d'extraction d'or il y a quelques années. Donc, des petites nouvelles d'Amérique latine, Costa Rica et puis Pérou, Simon. Et là, je te relance la balle au niveau des enjeux autochtones Canada-Québec.
Oui, mais pas vraiment en lien avec l'environnement. Quoique ça aurait pu, parce qu'il y en a régulièrement, il y en a dans l'actualité très récente
beaucoup
aussi.
Ouais.
Mais je vais me pencher sur d'autres choses. Je vais principalement revenir sur l'Assemblée annuelle des Premières Nations qui s'est tenue à Montréal début juillet. Gros événement pan-canadien, beaucoup de résolutions débattues. Ça s'est conclu par une entente de presque 48 milliards avec Ottawa pour réformer le système de protection de l'enfance. Mais tout d'abord, deux petites brèves, dont le 10e anniversaire que je tenais à souligner, de l'arrêt historique de la Cour suprême qui transférait la propriété de son territoire à la nation Tchécotène en Colombie-Britannique, ce qui donne un veto à la communauté pour tout projet se trouvant dans les limites de son territoire. C'était historique parce que c'était la première fois qu'une nation autochtone se faisait redonner autant de pouvoir sur ses propres ressources et son propre développement. Et ça a ouvert la porte à de multiples revendications liées à la décolonisation, dont plusieurs sont actuellement en cours de négociation ou devant des tribunaux.
Oui, donc c'était un précédent important à l'époque.
C'est un précédent qui a ouvert beaucoup de portes et des portes qui vont rester ouvertes pour les années à venir.
Oui.
Mais tout n'est pas rose. Deuxième brève presque insolite des Premières Nations reconnues comme réfugiées au Canada. Je ne sais pas si le statut de réfugié avait été accordé par le même fonctionnaire qui avait retiré sa citoyenneté à la pauvre Arielle Tanzine.
Oui, dont on a parlé.
Mais je blague parce que ce n'est pas du tout la même époque. Il faut remonter à plusieurs générations. 9 nations liées aux Dakota et Lakota de la Saskatchewan, du Manitoba et du Nord-Ouest ontarien se sont effectivement fait désigner comme réfugiés par le fédéral suite à la guerre de 1812. Donc, on qualifiait ces nations de réfugiés américains et ce statut de réfugié les privait de plusieurs services, ressources, avantages et même de territoires qui sont normalement consentis aux nations autochtones qui sont pleinement reconnues.
Au Canada?
Canada, oui.
Ouais,
parce que ce sont des nations qui sont des deux côtés de la frontière.
Exact, ouais.
Ça les privait aussi d'une présence aux tables de négociation des différents traités. Ce statut est maintenant retiré, le statut de réfugié. Il y a eu des excuses officielles qui ont été présentées il y a quelques jours. Donc, commence maintenant la construction de ces communautés en tant que nation. Et possiblement, il y aura des règlements financiers à venir puisque cette incongruité a considérablement nuit au développement social et économique des Dakota et des Lakota du côté canadien dans les deux derniers siècles.
On monte au 19e, là.
On est long, des fois, à réparer des injustices. Je vous disais en introduction que je voulais revenir sur la 45e Assemblée générale annuelle 2024, donc de l'Assemblée des Premières Nations, qui s'est tenue à Montréal dans la semaine du 8 juillet. C'était l'une des plus importantes à jamais avoir été tenue, assistance record, 2000 délégués de partout au Canada. Les chefs des partis politiques fédéraux étaient présents, même Capitaine Gros-Bonsang. Il a fait un beau discours à saveur économique. Il y avait un ordre du jour bien chargé, je le disais en intro, 76 résolutions présentées. Je vais vous en nommer quelques-unes, mais le point à retenir, c'est vraiment la conclusion d'une entente de 47,8 milliards avec Ottawa sur 10 ans. Pour réformer le système de protection de l'enfance, pour faire en sorte que les communautés puissent gérer elles-mêmes de façon autonome leurs services psychosociaux à l'enfance, incluant la gestion des foyers d'accueil. Ça vise un peu à réparer ce système qui faisait en sorte que de nombreuses familles ont été brisées, des milliers d'enfants sortis de force de leur communauté. Bref, c'était considéré comme un des rouages importants du génocide culturel qui pourra maintenant être éliminé avec cette nouvelle autonomie des nations autochtones sur le sort de leurs enfants. Le montant de 48 milliards s'ajoute aux 23 milliards d'indemnisation pour environ 300 000 enfants et leurs proches, enveloppe différente du 48 milliards qui avait été accordé il y a quelques mois, dans le cadre, je crois, d'un recours collectif.
Une décision du tribunal des droits de la personne du Canada, entre autres.
Raison. Donc, c'est pas clair si le 48 milliards s'ajoute aux 23 milliards, mais c'est bien le cas. Il faudra maintenant que les différents chefs présentent ce nouvel accord à leurs membres, mais tout le monde semble très optimiste que ce soit accepté dans toutes les nations autochtones, même si certains représentants ont déploré en Assemblée générale le fait d'avoir été un peu surpris par cette annonce sans avoir été vraiment consulté. Donc, je parlais de reconstruction tantôt pour les Dakota et les Lakota. C'est un peu la même chose dans ce cas-ci. Chaque nation devra créer ses propres structures, infrastructures physiques et les structures administratives. Dans le cadre de nouveaux programmes de protection de l'enfance selon ses besoins et ses caractéristiques culturelles propres. Donc, beaucoup de travail dans les prochaines années. J'ai pas vu de réaction officielle du gouvernement Legault, mais sur cet enjeu-là des services de protection de l'enfance, il avait toujours plaidé que c'est une compétence exclusivement provinciale avant d'être complètement débouté par un jugement de la Cour suprême en février dernier, on s'en rappelle, qui donnait entièrement raison aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. Je vous invite à aller consulter la liste des 76 résolutions qui étaient présentées aux membres. Ça nous donne une sorte de radiographie des préoccupations actuelles chez les Autochtones, qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, évidemment. Vous pouvez voir ça dans le site de l'Assemblée des Premières Nations sur afn.binder.com. Évidemment, il y a des technicalités plutôt administratives. Il y a eu des petits problèmes de leadership et de fonctionnement interne dans les dernières années. Mais sur les dossiers plus d'actualité, les dossiers de fond, même les thèmes qui reviennent le plus parmi les différentes résolutions, les droits de pêche et de chasse, on parle notamment de protection du saumon et du caribou. Il y a des résolutions sur l'eau potable, sur le logement, sur des projets de réforme de la loi sur les Indiens, sur les changements climatiques, sur des revendications de restitution territoriale, sur les traités. Il y en a sur l'établissement d'un fonds de guérison, je ne sais pas exactement c'est quoi. On en trouve aussi sur les services aux personnes handicapées, sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, sur les femmes et enfants disparus, sur l'enseignement de l'histoire et des cultures autochtones au grand public, sur la revitalisation des langues, sur l'élaboration d'une stratégie de désincarcération, ça c'est intéressant, sur les programmes de décontamination des sols et de l'eau, on en a pas mal parlé dans les derniers mois, avec des entreprises extractivistes ou de transformation au comportement parfois délinquant. Donc, vous voyez, ça ratisse assez large. C'est parfois dans le très général, des fois beaucoup plus ciblé et précis, mais ça donne quand même une bonne idée des chantiers à venir au sein des différentes communautés à travers le pays.
Ah, ça bouge côté autochtone. C'est assez passionnant et intéressant de suivre tout ce qui se passe dans les différentes communautés puis partout au pays.
Et ça débat, c'est dynamique.
Oui. Non, il y a de l'action. Donc, merci Simon pour ces actualités autochtones. On passe à quelques notes de musique. Donc, on s'en va, on retourne en quelque part, on s'en va en Afrique avec des élections qui ont eu lieu aussi dans les dernières semaines. Mm-hmm. Un plébiscite à 99%. Le tout-puissant président rwandais Paul Kagame a été réélu pour un quatrième mandat, prolongeant pour 5 années son règne à la tête du pays qu'il dirige depuis... 30 ans, 1994.
Oh, quand même.
Alias, un des membres des Blues Brothers, Paul Kagame, pour ceux et celles qui connaissent la référence.
Oui.
Le chef de l'État sortant, âgé de seulement 66 ans, réalise un score supérieur à ses 98,79% de la présidentielle de 2017, après avoir obtenu 95% en 2003 et 93% en 2010. Seuls deux candidats avaient été autorisés à concourir contre lui, Frank Habineza, leader du seul parti d'opposition autorisé, le Parti démocratique vert, et l'indépendant Philippe Mpayimana, qui ont obtenu respectivement 0,5 et 0,32%.
Ah, ben c'est un bel effort.
Un bel effort, hein, une belle générosité. Les législatives qui se sont tenues simultanément ont confirmé l'hégémonie du parti présidentiel, le FPA, qui a raflé 69% des voix avec deux partis alliés avec 8%. Donc, les autres partis n'ont pas franchi le seuil de 5%. Donc, c'est vraiment une grosse farce. Il jouit d'une forte popularité pour avoir relevé le pays exsangué au sortir du génocide. C'est un héros de la guerre, du renversement des extrémistes, etc. Mais ça fait 30 ans. Mais son régime est critiqué, notamment à l'étranger, pour son ingérence à RDC, où plusieurs milliers de soldats rwandais combattent aux côtés des rebelles du M23 et font des ravages dans l'est du pays. Et ça a été dénoncé encore par un récent rapport d'experts de l'ONU. Et il est critiqué à l'interne, évidemment, pour sa répression des voix dissidentes, emprisonnement d'opposants, etc., etc. Après avoir atteint la limite de 2 septennats, le président Kagame avait pu se présenter à nouveau en 2017 à la faveur d'une révision constitutionnelle controversée en 2015, instaurant le quinquennat. Sauf que la modification avait suscité de vives critiques car elle remettait à zéro le nombre de mandats que M. Kagame avait fait qu'il recommençait après 2 septennats avec des quinquennats. Mais il y a eu un septennat transitoire entre les deux en plus. Ce qui fait qu'il reste 2 quinquennats encore, fait qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034, finalement. Jusqu'à l'âge de 76 ans.
Je pense que son avenir est assuré.
Oui, je pense qu'il est bien, il est bien en selle. Sinon, dans un pays un peu plus au nord, au Kenya, le chef de la police a dû démissionner au lendemain du limogeage de la quasi-totalité du gouvernement et 2 semaines et demie après des manifestations contre un projet de loi de finances violemment réprimé par les forces de l'ordre au Kenya. Le 25 juin, des manifestations contre de très contestés projets de taxes avaient dégénéré, de jeunes manifestants prenant d'assaut le Parlement. La police avait tiré à balles réelles sur la foule. Selon la Commission nationale kenyane des droits de la personne, 39 personnes sont mortes depuis la première manifestation le 18 juin. De nombreuses organisations de défense des droits humains ont alors critiqué les méthodes employées par les forces de l'ordre et demandé l'ouverture d'enquêtes. Récemment, 10 de corps ont été retrouvés dans le bidonville de Mukuru à Nairobi. Enfermés dans des sacs plastiques, ils gisaient à l'air libre dans une carrière non loin du poste de police de Kware. Quand les populations locales se sont regroupées pour demander des comptes, elles ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène, évidemment. Le fait que les corps avaient été retrouvés dans des sacs plastiques rappelle le sinistre souvenir de la rivière Yala. En mars dernier, une 40aine de cadavres avaient été retrouvés, emballés de manière similaire. Les organisations de défense des droits avaient alors soupçonné que ces dépôts appartenaient à des victimes d'exécutions extrajudiciaires par la police et l'armée. Les violences policières sont plus que jamais au cœur des préoccupations du mouvement de la jeunesse Gen Z, c'est-à-dire la génération Z. La police kenyane avait déjà été accusée d'usage excessif de la force et d'exécutions extrajudiciaires. Les manifestations contre la vie chère à l'appel de l'opposition avaient donné lieu l'an dernier à des pillages et des affrontements au Kenya faisant au moins 50 morts. Donc, ça brasse beaucoup. Kenya, on entend un peu parler, mais pas beaucoup tant que ça.
Pas tellement, non.
Des fois, quand il y a, bon, le gouvernement démissionne en bloc, là, mais sinon, pour ce qui est des manifs, de la violence, mais c'est un pays qui bouge beaucoup au Kenya. Donc, voilà. Fait que voilà des nouvelles africaines. Simon, je te repasse la parole pour ton bloc Méditerranée.
Donc, on
se promène,
nord,
hein?
On se promène.
Dans le même coin, quand même.
On reste en partie sur le continent africain. La Méditerranée, ben, qui continue d'être de loin la route migratoire la plus empruntée dans le monde. Et en général, l'été constitue un pic de fréquentation parce que c'est considéré comme étant la saison la moins dangereuse. Question climat, courant, agitation de la mer. Mais la Méditerranée, en termes de décès, reste quand même beaucoup moins meurtrière que l'Atlantique, probablement beaucoup la route des îles Canaries. Les chiffres les plus récents qu'on a pour la première moitié de l'année, environ 1000 morts en Méditerranée versus autour de 5000 dans l'Atlantique. Ce sont les morts qui ont été comptabilisées par l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, mais on le sait, une certaine proportion des décès demeure inconnue et ne figure pas dans les statistiques.
Exactement. Ouais.
Pour ce segment, je vais donc me concentrer sur la Méditerranée. Je vous parle principalement de quelques sauvetages récents. Le mois de juillet, je pense qu'on peut le qualifier de saturé et très intense. Les nouvelles restrictions de l'Italie, on en parlait récemment, soit de n'autoriser l'accès qu'aux ports, souvent situés le plus au nord possible, ou finalement le plus loin des opérations de sauvetage qui ont généralement lieu dans le centre et le sud de la Méditerranée. Ça fait perdre tant argent, carburant aux ONG, comme SOS Méditerranée. Bref, ça nuit considérablement à leur capacité opérationnelle. Avant de vous parler de récentes opérations de sauvetage, je vous recommande la lecture d'un article sur rts.ch, donc c'est suisse, dont le titre est « Les attaques de pirates rendent le sauvetage des migrants en mer de plus en plus périlleux ». C'est un phénomène relativement nouveau. On avait normalement dans la Méditerranée trois grandes catégories d'acteurs impliqués dans les phénomènes dans l'immigration. Premièrement, les gardes-côtes officiels des États européens ou africains ou encore ceux de l'agence européenne Frontex. Ensuite, on a évidemment les migrants en tant que tels, le plus souvent en présence de réseaux de passeurs, mais pas toujours. Et trois, bien sûr, on trouve les ONG de sauvetage qui sillonnent la mer et qui sont à l'affût des signalements envoyés par Alarm Phone ou autres ONG dont les missions sont de collecter, coordonner et relayer les informations recueillies sur les ondes radio qui flottent au-dessus de la mer. Justement, ces travailleurs ou bénévoles qui abordent des bateaux de sauvetage, qui sont à bord des bateaux, ils constatent la présence de plus en plus marquée d'une autre catégorie d'individus, souvent à bord de Zodiac en très bon état de fonctionnement. Ils sont masqués et armés, aucun badge, aucune identification. Souvent, ils tournent autour, observent sans intervenir pendant les opérations de sauvetage, ajoutant un élément de stress considérable pour les migrants et pour les travailleurs humanitaires. On pense, d'après les observations, que ce sont des groupes criminels peut-être liés aux passeurs libyens. C'est pas encore très clair. Ils seraient là pour ramasser ce qui a été laissé derrière, effets personnels, gilets de sauvetage, personnes encore vivantes qui n'auraient pas été rescapées, et surtout les embarcations qui seraient ramenées au point de départ, par exemple en Libye, en Tunisie ou en Égypte, pourraient être réutilisées. Par contre, il y a un incident qui a dégénéré. Ça s'est produit le 9 juillet dernier. Je vous lis un extrait d'une publication de SOS Méditerranée dans les réseaux sociaux. Ce matin, l'Ocean Viking a porté secours à 93 personnes. Deux Zodiacs non identifiés se sont alors approchés et deux hommes masqués sont montés dans l'embarcation en détresse, alors que des personnes se trouvaient toujours à son bord. Prise de panique, certaines d'entre elles ont sauté à l'eau. Environ 15 personnes ont été récupérées par notre équipe. Les hommes masqués et les deux Zodiacs sont ensuite repartis avec l'embarcation vide.
Il y a des vidéos, on a de ça, hein?
Il y a des vidéos, on voit très clairement.
Qu'est-ce qui se passe, là?
C'est très bien expliqué. Dans l'article de RTS, on affirme que cette simple intervention de ces deux hommes aurait pu avoir des conséquences désastreuses parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas de gilet de sauvetage. Elles sont épuisées, déshydratées, désorientées, en hypothermie parfois, il y avait des enfants. On nous explique qu'il faut normalement mener ces opérations avec un protocole très strict et beaucoup de doigté. Donc, c'est très délicat.
Oui, évidemment qu'il y a beaucoup de monde entassé sur une petite embarcation.
Un climat de panique un peu en même temps, la mer qui est agitée, bref. Donc, quel était le but visé par ces deux hommes cagoulés, armes à la main, en montant à bord de la petite embarcation remplie de migrants? Difficile à dire. Les autres fois qu'on a observé ce genre de manège, les hommes masqués, comme je le disais, restaient à distance et attendaient que ce soit terminé pour ratisser les lieux. Est-ce qu'on voulait faire peur par simple plaisir sadique? Il y en a qui pensent ça. Ou parce que ça allait pas assez vite à leur goût? Donc là, on spécule, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Pour finir, quelques autres opérations de sauvetage, ça va vous donner une idée du nombre de personnes qui tentent la traversée en cette saison. Les exemples que je donne ne sont pas exhaustifs. Début juillet, le CI-4 et le Humanity 1 ont porté assistance à 522 personnes lors de 8 opérations de sauvetage. Les ports assignés par les autorités italiennes ont été Gênes, donc difficile d'être plus loin au nord, et Bari, qui est quand même plus au sud, mais du côté de la mer Adriatique. Donc, dans les deux cas, plusieurs jours de navigation supplémentaire. Ce week-end-là avait été marqué par des vents forts avec des vagues de 1,5-2 mètres. Ça, c'était les 6 et 7 juillet. Vers les 11 et 12 juillet, l'Ocean Viking a secouru 360 personnes en deux jours. Donc, vous voyez, on s'est pas laissé intimider par les deux hommes masqués et armés. Ça s'était produit à peine quelques jours avant. 6 sauvetages réalisés entre les côtes tunisiennes, libyennes et italiennes autour donc de Lampedusa, avec dans ce cas-ci la collaboration partielle des gardes-côtes italiens qui ont pris en charge une partie des migrants pour les amener sur le territoire italien. Je le souligne parce que c'est pas tout le temps le cas.
Non, non, tout à fait.
D'autres chiffres, on est à la fin de semaine, c'est la fin de semaine dernière, 20-21 juillet, les navires humanitaires Geo Barents et Aurora ont porté assistance à 297 migrants, alors que les gardes-côtes italiens ont secouru 126 personnes au large de Lampedusa. Donc, vous voyez, semaine après semaine, c'est des chiffres assez importants. Pourtant, en Italie, on constate cette année une baisse de 60% d'arrivées par la mer par rapport à la première moitié de 2023. Donc, les chiffres du ministère italien de l'Intérieur sont les suivants. On est passé de 71 000 à 27 000 migrants arrivés par la mer sur le sol italien. T'en parlais tantôt, Mathieu.
Ouais, c'est ça,
entre autres,
dire, ouais.
C'est en bonne partie dû à l'entente avec
la Tunisie.
La Tunisie. Ouais, élément, je me rappelle si tu l'as mentionné, mais qu'il y a eu une négociation pour élargir le périmètre maritime des gardes-côtes tunisiens. Donc, leur champ d'intervention est maintenant plus large aussi.
Vers l'Italie, là.
Ouais. Donc, ils n'ont pas tout seulement plus de moyens, mais ils ont un plus grand territoire.
Pour faire leur job, pour
intervenir. On va dire intervenir pour être neutre. Je vous laisse avec un dernier petit chiffre. Selon l'OIM, toujours, presque 10 000 personnes jusqu'à maintenant, en 2024, ont été interceptées en mer pour être foulées vers l'enfer sur Terre, la Libye.
Ben oui.
Voilà.
La Libye est toujours là, on ne l'oublie pas, hein?
Ah, ben non.
Malheureusement.
Elle ne l'oublie pas elle-même non plus.
Hein. Non, tout à fait. Merci, Simon, pour ces actualités méditerranéennes. Donc, on va poursuivre en musique avec une deuxième pièce. C'est donc la chanteuse instrumentiste Laetitia Sadier avec la pièce « Une autre attente ».
Trop joyeux. La chemin de l'amour, un chemin difficile,
Laetitia Sadier, la pièce « Une autre attente » de son cinquième album solo « Rooting for Love », sorti en février dernier sur Drag City Records. C'est la chanteuse de Stereolab, que vous connaissez peut-être, groupe de pop expérimental créé en 1990 et qui existe toujours. C'est un groupe franco-allemand-britannique, un groupe européen finalement. Et Laetitia Sadier fait de temps en temps des albums. Elle est venue à Montréal d'ailleurs il y a quelques mois pour présenter cet album-là. Donc voilà. T'es agréable, hein, Marie-Ève?
Oui.
Oui, oui. OK. On va revenir un peu au Québec-Canada. Ça a été, à part les actualités autochtones, ça a été beaucoup à l'international. Je vais vous parler de police, hein, on aime bien ça. Les personnes noires et les personnes originaires du Moyen-Orient sont toujours surreprésentées dans les statistiques sur le recours à la force par la police d'Ottawa. Selon un rapport de la commission de services de police de la ville, publié cette semaine, les agents ont eu recours à la force contre 310 personnes l'année dernière. Parmi elles, 81 étaient considérées comme noires par la police, parce qu'ils ramassent des statistiques, évidemment, depuis quelques années. Cela représente 26% du total, soit exactement le même pourcentage que la moyenne sur 4 ans, alors que les personnes noires ne représentent que 8% de la population d'Ottawa. Donc 26 versus 8.
Oui.
La police a eu recours à la force contre 33 personnes considérées comme étant originaires du Moyen-Orient, soit 11% du total. Là encore, c'est exactement le même pourcentage que sur 4 ans. Environ 6% de la population de la ville est Moyenne-Orientale. Donc, les Noirs sont plus de 3 fois susceptibles de faire l'objet d'une intervention policière avec recours à la force, que leur nombre le laisse supposer, et les personnes originaires du Moyen-Orient, presque 2 fois plus. Mmh. Les statistiques comptabilisent la force affichée comme un recours à la force, même si elle n'est pas réellement appliquée à une personne. L'exemple qu'il donne dans l'article de Radio-Canada, un policier peut ainsi brandir sa matraque sans assommer qui que ce soit. Mais c'est un recours à la force quand même.
OK.
Tu comprends?
C'est comme la menace de...
Oui, oui, l'utilisation d'intimidation ou de menace, ouais. Dans près de la moitié des cas, la force n'a été que manifestée, bien que les Noirs et les personnes originaires du Moyen-Orient aient été relativement plus nombreux à en être victimes en bout de ligne. Hein? Gardons ça. L'ancien membre du Conseil sur l'équité police-collectivité, un groupe consultatif communautaire qui œuvre auprès du service de police d'Ottawa pour lui faire part de manière d'améliorer et de renforcer les relations entre la police et les groupes autochtones, confessionnels, racisés. Donc, il s'appelle Hector Addison. Il juge que ces statistiques inacceptables et inquiétantes. Je le cite, « Rien ne s'est amélioré, regrette-t-il. Il semble que tous les efforts que nous avons déployés n'aient pas porté leurs fruits. » Il poursuit, « Mais pourquoi ça ne change pas? La vérité que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre, c'est que nous vivons bel et bien dans une société non seulement de racisme systémique, mais également de privilèges blancs. Le rapport l'indique lui-même. Quel est le groupe racial qui n'est pas en surreprésentation par rapport à l'usage de la force par la police?
Ce sont les Blancs.
Mmh. » Jusqu'à quel point on s'adresse sur le fond cette question? Il n'y a pas seulement la formation des policiers, parce que ça, c'est la surface. Il y a aussi notre système scolaire, notre système éducatif, le milieu de l'emploi, tout comme la culture dans laquelle nous vivons. Donc, je voulais juste vous citer un intervenant là-bas. Donc, voilà ce qui se passe du côté d'Ottawa. Donc, ça ressemble à une certaine ville qui s'appelle...
Montréal,
hein?
Ben oui.
Ben oui. Donc, Marie-Ève, t'as l'air toute prête et toute enjouée de pouvoir faire ton deuxième micro. Donc, je te passe la parole. On parle d'immigration ici, Québec-Canada.
Et on reste à Ottawa!
Oh yes!
Alors que toutes les provinces canadiennes ont annoncé les unes après les autres mettre fin à leur entente avec le gouvernement fédéral pour la détention de personnes migrantes, l'Ontario a cédé aux pressions d'Ottawa pour prolonger jusqu'au 31 juillet, donc la semaine prochaine, son contrat avec l'Agence des services frontaliers,
ben oui,
qui devait prendre fin le 15 juin. Ça veut dire que des personnes migrantes se trouvent toujours derrière les barreaux en Ontario pour des raisons administratives. Sauf que au début juillet, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé un recours collectif contre le gouvernement fédéral. De la part de qui? De la part de 8300 personnes qui ont été détenues dans 87 prisons provinciales ou territoriales par la SFC entre 2016 et 2023. Dans sa décision, la Cour a rejeté les 15 objections soulevées par les avocats du gouvernement canadien qui tentaient de stopper le recours. Le juge Benjamin Gluckstein écrit, j'ouvre les guillemets, des personnes étaient incarcérées à des fins d'immigration dans des prisons provinciales et faisaient face aux mêmes conditions que les détenus criminels, y compris la cohabitation avec des délinquants violents, l'utilisation de chaînes et de menottes, des fouilles à nu et de strictes restrictions de contact et de mouvement. Fin de la citation. Or, Selon le droit canadien et international, la détention liée à l'immigration est de nature, comme je le disais tantôt, administrative et donc ne peut pas être punitive. Et donc, cette pratique-là viole les droits garantis par la Charte. La poursuite réclame 100 millions de dollars en dommages qui seraient répartis entre les détenus de l'immigration. Le gouvernement fédéral n'a toujours pas indiqué là, s'il allait porter en appel la décision de la Cour ontarienne. Puis ben les conditions de détention des migrants dans les prisons provinciales sont tellement épouvantables qu'elles sont même dénoncées par des commissaires qui siègent à la commission de l'immigration, la très progressiste commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, qui est le plus important le tribunal administratif indépendant au pays. Dans des transcriptions d'audience de 2022 et de 2023 que Radio-Canada a obtenues, il est plus particulièrement question des conditions dans la prison à sécurité maximale de Maplehurst, Hamilton, dans le sud de l'Ontario. Je vous donne deux citations. La première, c'est des citations de commissaires, là.
Oui.
Donc, quelqu'un souffrant de problèmes de santé mentale était dans sa cellule 23h30 par jour pendant plus de 2 mois avec très peu d'interactions humaines. Il se montrait tout excité quand quelqu'un venait faire une simple vérification parce que sinon, il n'avait personne avec qui parler. C'est très préoccupant et je tiens à noter que c'est inacceptable. Et la deuxième citation, ce que je trouve le plus préoccupant, c'est le fait que vous avez eu droit à une seule douche en plus d'une semaine de détention et que vous êtes dans une cellule sans toilette fonctionnelle. La toilette, en fait, débordait de,
ben oui,
de papier hygiénique le souillé par les anciens détenus.
Oui. Okay.
Pardon. Il y a d'autres commissaires de la division de l'immigration qui ont décrit les conditions comme inhumaines en raison de la surpopulation, du manque de ressources, du manque d'aide psychologique, puis d'autres programmes de réadaptation absent aussi. Des commissaires et des avocats affirment aussi qu'il leur est difficile là, de parler directement aux personnes détenues dont ils s'occupent. Puis on parle aussi d'audiences reportées à plusieurs reprises en raison du manque de personnel. Je rappelle que du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la SFC a détenu près de 5000 migrants, dont 78% pour risque de fuite seulement. Donc, évidemment, il n'y a rien de criminel.
Ouais.
Quelque 17% des migrants détenus ont été envoyés dans une prison provinciale. Puis, sur un autre sujet, je vous avais parlé il y a quelques semaines des efforts du gouvernement du Québec à l'étranger pour recruter des travailleurs et des travailleuses. Bien, il y a une autre de ces initiatives-là qui avait pour objectif de recruter 1000 infirmiers et infirmières à l'étranger. Il s'agit du projet de reconnaissance des compétences d'infirmiers et infirmières recrutés à l'étranger qui a nécessité un investissement de 65 millions de dollars et l'implication de 3 ministères, celui de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, le ministère de l'enseignement supérieur et celui de la santé et des services sociaux. Comment ça fonctionnait? C'est qu'après un processus de recrutement qui comportait une évaluation des compétences acquises à l'étranger, ben là, il y a l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui a imposé qu'ils participent à une formation d'appoint, c'est-à-dire qu'ils obtiennent une attestation d'études collégiales de 9 à 14 mois. Et donc, les infirmiers et infirmières recrutés doivent assumer les frais là, liés à leur déménagement au Québec, mais le MIFI, lui, prend en charge là, plusieurs autres frais, comme les frais d'immigration. Les personnes sont aussi exemptées de payer des droits de scolarité. Pendant leurs études, elles ont droit à une allocation de 500 $ par semaine, pardon, puis à une allocation pour les frais de garde d'enfants et de transport. Et une fois l'attestation obtenue, ben là, il faut que les personnes passent l'examen de l'OIQ.
Mm-hmm. De l'Ordre, oui.
De l'Ordre des infirmiers, c'est ça. Et donc, depuis l'automne 2022, ben il y a des cohortes qui ont été créées dans une trentaine de cégeps. Sauf que là, il y a des infirmiers et infirmières qui ont été formés dans l'ouest de l'Afrique et recrutés par le Québec qui vivent dans la précarité après avoir été expulsés du programme de formation d'appoint imposé par la province. Ils dénoncent qu'un seul échec dans leur parcours de leur formation leur empêche là de poursuivre leur projet et affirment avoir jamais été informés de cette éventualité-là arrivée au Québec, c'est-à-dire que s'il y a un échec, ils sont automatiquement expulsés du parcours. Puis une fois expulsés du parcours, ben c'est la fin immédiate de l'allocation des études, de la couverture d'assurance maladie et de la possibilité de travailler. Donc, c'est vraiment un problème parce qu'il y en a qui ont quitté des emplois, genre, en partant de leur pays, puis
oui,
il y en a qui ont des personnes
beaucoup,
à charge ici aussi.
Ouais.
Je vous invite à aller voir, lire le reportage de Radio-Canada qui est paru le 10 juillet et qui s'intitule « Des infirmiers recrutés à l'étranger se sentent trahis par le Québec ».
Merci beaucoup, Maria, pour ces actualités Québec-Canada en immigration. On y va avec l'agenda. Donc, un agenda assez court parce que c'est l'été. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Bon, on vous a parlé il y a quelques semaines de Cinéma sur les étoiles qui se passe surtout à Montréal, dans quelques autres villes au Québec aussi. Deux suggestions. Le 7 août prochain, au parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord, projection évidemment gratuite, Le mythe de la femme noire, dont on vous a déjà parlé à l'émission, de Ayanna Oshun, que j'ai toujours jamais vu d'ailleurs, qui est présenté donc le 7 août. Long-métrage documentaire qui enquête sur l'image des femmes noires dans la société. Selon des spécialistes, la communauté noire est la minorité la plus stéréotypée par des images du passé et du présent, particulièrement les femmes. Donc, le 7 août. Le lendemain, le 8 août, à la Biosphère, sur les Saintes-Hélènes, c'est Attic, gardien du territoire de Guillaume Langlois et Nicolas Lévesque. Jean-Luc Canapé et nous de Pessamit nous mènent sur la piste des dernières arts de caribou sur le territoire ancestral de sa communauté. C'est quand même pas mal dans l'actualité actuellement. Je vais y aller avec nos amis de Ababar qui nous ont envoyé un message. La revue Ababar, évidemment, qui a perdu son accès à une subvention de Patrimoine Canada pour les magazines, un montant important qui nous donnait une bonne assise financière. L'exclusion de certains exemplaires dans le total des ventes ne nous permet plus d'atteindre le minimum exigé par le subventionnaire, selon le calcul nettement à l'avantage des revues les plus commerciales. En espérant obtenir une autre subvention, nous nous trouvons dans une situation financière encore plus incertaine que la précarité usuelle d'une petite organisation comme la nôtre. Voilà pourquoi nous lançons notre campagne de socio-financement. La place d'Ababar est unique au Québec, seule revue autogérée donnant la parole aux personnes issues des mouvements sociaux dans leur diversité. Donc, le montant recueilli permettra de constituer une réserve financière de 15 000 $ leur permettant d'assurer la production et la livraison d'un seul numéro. Quand même, ça coûte cher, hein? Nous comptons sur votre générosité et votre attachement pour leur permettre de vivre bien au-delà du 20e anniversaire de Ababar et du 100e numéro qui fête actuellement. Donc, ils ont ramassé 12 000 sur 15 000 pour l'instant. Cherchez donc campagne de sociofinancement à Ababar sur le web pour pouvoir donner des sous si ça vous intéresse de les appuyer. En terminant pour l'agenda, c'est pour un peu relancer Marie-Ève dans son bloc Proche-Orient tantôt. Deux jurys du prix Scotiabank-Giller se retirent à cause des liens de la Banque Scotia avec Israël.
Ben oui, ça fait longtemps que ça dure, ça. C'était...
Oui, oui.
Il y a toute une campagne. Là.
Exact, je vais en parler deux minutes. La romancière indienne Megha Majumdar a suivi l'auteur éthiopien-américain Dina Mengistu en démissionnant du jury qui décerne le prix littéraire de 100 000 $. Les deux jurys internationaux ayant abandonné, il ne reste que les trois juges canadiens, les auteurs Noah Rickler et Kevin Chung et l'autrice, compositrice, interprète Molly Johnson. La démission de Mme Majumdar et de M. Mengistu survient alors qu'un groupe croissant d'écrivains appelle la Fondation Giller à se séparer de la Banque Scotia en raison de ses investissements auprès d'un fabricant d'armes israélien. On en a parlé ici à l'émission. La directrice exécutive de Giller, Elena Rabinovich, a déclaré la semaine dernière que le conseil d'administration avait discuté de cette pression croissante mais avait décidé de garder la banque comme commanditaire car la Fondation n'est pas un outil politique. Intéressant, hein? De nombreux auteurs ont signé une lettre appelant le Giller à cesser d'accepter de l'argent de la Banque Scotia et de tous les commanditaires qui sont directement investis dans l'occupation de la Palestine. Qui comprennent ces autres commanditaires-là, Marie-Ève? Indigo, évidemment, la chaîne des librairies, dont les actionnaires majoritaires Gerald Schwartz et Heather Reisman ont fondé la fondation ESSEG, qui offre des bourses aux personnes extérieures à Israël qui rejoignent l'armée de ce pays. La Banque Scotia n'a pas répondu aux demandes de commentaires des médias là-dessus, mais le prix est un peu en péril actuellement. Ouais. Donc voilà, c'est une partie culturelle. Je vais faire le lien avec ta chronique, Marie-Ève, sur le Proche-Orient tantôt. Donc, si je calcule bien mes affaires, c'est la fin de l'émission. Donc, il nous reste quelques minutes avec une longue pièce de fin d'émission comme à l'habitude. Je voulais juste vous souligner, dans l'espèce de folie furieuse des Jeux olympiques actuels qui commencent aujourd'hui, il y a quand même les Jeux paralympiques qui ont lieu du 28 au 8 septembre. C'est après, malheureusement, donc il y a moins d'intérêt. Mais 8 athlètes réfugiés ont rendez-vous à ces Jeux à Paris. Des sportifs originaires du Cameroun, de Syrie, d'Afghanistan ou encore d'Iran, soit qui composent la plus grande équipe paralympique de réfugiés jamais créée pour des Jeux olympiques. Donc, c'est l'équipe paralympique de réfugiés. Il y a une équipe aussi olympique de réfugiés aussi dans les Jeux dits ordinaires. Représentant plus de 120 millions de personnes déplacées de force et 1,2 milliard de personnes ayant un handicap dans le monde, ces 8 athlètes sont basés dans 6 pays et concourront dans 6 sports, le para-athlétisme, para-haltérophilie, para-tennis de table, para-taekwondo, para-triathlon et escrime en fauteuil roulant. C'est des gens, donc, comme je disais, de Syrie, Afghanistan, ouais. Iran, Cameroun et Colombie, entre autres. Donc, intéressant à suivre, donc, la deuxième partie, donc, à partir de la fin août.
J'ai une question.
Donc, oui, vas-y, oui.
Bien, peut-être que tu peux pas répondre, mais...
Peut-être.
Est-ce que les entraînements, ils les font dans leur pays respectif ou ils formaient une équipe?
Ils formaient une équipe. Il y a un entraîneur attitré, il y a un accompagnateur. Okay. Puis, ils se voyaient les semaines avant, je suis pas sûr que c'était en France, mais dans un endroit okay. pour pouvoir... où ils ont accès à des installations qui correspondent à leur sport, évidemment. Donc, okay. Voilà ce que je comprends. Mais il y en a que c'est des réfugiés qui ont été, sont réfugiés depuis 20 ans. C'est pas des réfugiés nécessairement récents de cette année. Donc, voilà. Fait que les Jeux olympiques alternatifs du côté des apatrides anonymes. Donc, ben, on va se laisser sur de la musique. Avant, ben, vous dire que je remercie mes comparses Simon et Marie-Ève pour leur contenu et la technique aussi.
Merci Mathieu pour l'extraordinaire animation.
Hey, ça fait plaisir. Écoute, en plein mois de juillet.
Merci vous deux et merci à tout le monde qui nous écoute aussi.
Ben voilà. Je vous rappelle qu'on a un site internet apatridesanonymes.info, une page sur le site de Choc, allez voir choc.ca apatridesanonymes, une page FB, mais on n'en parle pas trop ces temps-ci. Et sinon, ben on vous revient, nous, le 22 août 2024 avec une entrevue sûrement, peut-être juste Simon et moi, c'est à vérifier tout ça. Mais on prend congé, donc dans 2 semaines. Notre seul congé de l'été, à peu près, qu'on prend officiellement. Donc, on vous souhaite de réécouter nos émissions précédentes et de suivre l'actualité parce que l'été, ça ne s'arrête pas du tout, du tout. Donc, ben voilà. Puis, je vous rappelle aussi qu'on est diffusé sur les ondes de Radio Victoria dans l'Ouest, entre deux feux de forêt ces temps-ci. Ouais, c'est ça. C'est un peu moins drôle. Donc, on va se laisser avec un projet assez intéressant que j'ai beaucoup aimé. Susanna Hood Trio. La pièce, elle va s'appeler Love and Politics. L'album s'appelle Unpacked. C'est sorti en décembre dernier sur Ambiance Magnétique, compagnie de disques québécoise en musique actuelle. C'est des pièces du compositeur américain Steve Lacy, assez connu, des textes de l'autrice américaine Judith Malina. Et les interprètes sont donc Susanna Hood à la voix, Tania Gill et Kayla Milmin, qui jouent de la percussion et du saxophone. Donc, ben voilà, c'est la musique contemporaine avec des textes engagés. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, Susanna Hood Trio, la pièce Love and Politics. On vous souhaite une très belle soirée. Should discuss the power of
she sank out of Thank you.